Nous allons lire les deux textes qui vont introduire ou être support de la prédication de Roger ce matin.
Je commence avec Exode, chapitre 6, les versets 2 à 7. Et Dieu ajouta, « Je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, l'Éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites, réduits à l'esclavage par les Égyptiens, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent, et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des corvées que les Égyptiens vous imposent. »
Alors, dans le même livre, l'Exode, nous allons lire au chapitre 12, l'institution de la Pâque juive, bien sûr, versets 1 à 14. « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la communauté d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et l'on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, et on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. » On va prier pour Roger. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton serviteur Roger au milieu de nous ce matin, qui va essayer de nous dire quelque chose de ta part. Et nous voulons le bénir en ton nom, croyant que tu l'as qualifié pour cela. Nous te remercions parce que tu veux nous rendre attentifs à ta parole, que nous n'entendions pas et que nous oublions tout de suite après, mais que cette parole nous accompagne tous les jours et nous fasse vivre par l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous voilà donc dans le livre de l'Exode. Si l'Exode nous apprend quelque chose, et si vous retenez une chose, c'est ça que j'aimerais que vous reteniez, c'est, je vais vous faire la... l'illustration, si vous permettez. La dernière fois que j'ai prêché sans chaussures, c'était en Inde. Et c'était pour des raisons culturelles, semble-t-il, que les gens prêchent sans leurs chaussures là-bas, mais ce matin, il y a une autre raison. C'est pour nous placer dans le contexte de l'Exode, où je vous rappelle que Moïse, quand il a vu ce buisson ardent, Dieu lui a dit, mais le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes souliers. Si l'Exode nous enseigne une chose, c'est la sainteté de Dieu. Jusque-là, on ne m'a pas connu sous le nom de l'Éternel. Mais maintenant. Et dans ce passage, c'est la situation, c'est les plaies. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la préparation de ce Dieu trois fois saint qui va descendre sur le mont Sinaï et il donne l'avertissement. Il faut même pas toucher le bord de la montagne. On peut pas s'approcher de ce Dieu qui se révèle comme étant le Dieu trois fois saint. Et la suite du livre et sa conclusion de l'Exode va être comment préparer l'homme de pouvoir s'approcher de la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Je ne sais pas quelles sont les figures que vous avez pu respecter dans votre vie. Je me rappelle quand il y avait la transition entre l'école jusqu'à 11 ans, et puis c'était le moment d'accéder au lycée. Ça se passait comme ça en Angleterre. Et puis, le directeur avait la réputation d'être un homme qu'on respecte, on peut dire, mais on peut dire qu'on craint. Alors, quel était notre désarroi? Les petits jeunes qui arrivaient là et découvraient que ce directeur donnait le cours de religion quand il s'est présenté dans la classe. Mais quelle était notre surprise de découvrir que sous cette présentation d'un homme de grande autorité, il y avait un homme aussi qui était très proche. Mais on allait dans les couloirs, dans la crainte et le tremblement quand il circulait dans l'établissement. Le bon vieux temps, diraient certains. Dieu est saint. Dieu est saint. Et nous, on ne peut pas ne pas voir l'étendue de la séparation entre un Dieu qui est parfait dans tous ses aspects, qui habite une lumière inaccessible, et nous, avec tout ce que nous sommes. Notre éloignement de sa perfection est une évidence qui, me semble, il ne faut pas développer. Nos meilleurs efforts ne peuvent pas faire que nous devenions saints comme Dieu. C'est uniquement un attribut qu'il peut nous communiquer. La sainteté de Dieu. Et c'est partout dans l'Exode et ce serait explicité au chapitre 15, verset 11. La magnificence de ta sainteté va être chantée. Alors, nous sommes là dans l'Exode. Les 9 plaies ont eu lieu. La dixième plaie est déjà annoncée. Et voilà qu'il y a ce passage de l'agneau qui doit être sacrifié. Mais pourquoi ce passage se trouve là? Le succès de la dixième plaie est déjà annoncé. Si vous regardez au chapitre 11, verset 1, donc ce serait la dernière plaie, et après quoi il vous laissera partir. Donc il n'y a pas question maintenant, c'est décidé, ça va permettre la délivrance. Pourquoi alors l'agneau sacrifié? Jusque-là, pour les 9 premières plaies, c'était Moïse et Aaron qui étaient les médiateurs, qui étaient envoyés vers le Pharaon. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui entre en Égypte. Chapitre 11, verset 4. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte. Et nous avons entendu dans notre passage du chapitre 12, je parcourrai le pays. C'est Dieu lui-même, le Dieu trois fois saint, qui va entrer dans la terre d'Égypte. Et on se souvient que pour les 9 premières plaies, Israël n'avait aucune démarche à entreprendre. Dieu voyait fort bien la différence entre le bétail à Goshen et le bétail dans le reste du pays de l'Égypte. Dieu a pu très bien veiller que le courant était maintenu dans le pays de Goshen pendant les 3 jours que c'était les ténèbres complets dans le reste d'Égypte. Pourquoi maintenant il fallait mettre ce sang autour des linteaux? Dieu savait fort bien faire la distinction. Et on a nettement l'impression que si c'est la dernière plaie, c'est un nouveau commencement. Ce serait le premier mois de l'année, nouveau départ. Mais ça ne répond pas à la question, pourquoi l'agneau devait être sacrifié? Est-ce qu'il n'y avait pas plus important à faire? Vous imaginez, ils sont là dans le pays depuis 430 ans, tout ce qu'il faut plier comme bagage. Et voilà, les instructions sont données. 4 jours pour choisir la bonne bête, la manière que la cuisson doit effectuer, même les herbes à chercher à mettre avec. La nécessité de la Pâque. Et la nécessité de la Pâque intervient pour la raison suivante. Et c'est pour ça qu'on a lu dans le chapitre 6. Parce que Dieu avait un projet double qui se trouve dans ce chapitre 6. Le verset 6 nous a dit sa promesse d'affranchir de la servitude. Dieu a entendu leur cri. Il a vu. Maintenant, la solution finale était déclenchée. Tous les garçons dans le Nil. Déjà, Dieu allait intervenir pour délivrer du tyran. Mais est-ce que c'est tout? Parce que là, on peut dire que la 10e plaie allait très bien faire l'affaire, si vous permettez que je dise les choses ainsi. C'était garanti. Mais Dieu avait un autre projet. Et ça, on trouve dans le verset suivant. Enfin, verset 6 déjà. « Je vous rachèterai. » Verset 7. « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. » Délivré d'un côté, mais c'était que la moitié de la démarche. Le projet de Dieu, c'était de restituer un peuple à lui dans leur situation première. Pourquoi je dis ça? Parce que littéralement, c'est dit, je serai votre Goël. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les non-initiés? Alors, on se souvient peut-être de cette belle histoire de Ruth dans ce monde brut entouré des juges, et etc. Et voilà qu'à ce moment-là, Ruth, qui avait tout perdu de son héritage, elle va découvrir qu'il y a quelqu'un, Boaz, qu'on appelle le Goël, celui qui peut faire le nécessaire pour qu'elle entre dans son héritage du départ. Qu'elle avait tout perdu. Elle n'avait plus d'espoir. Sauf que si ce proche parent intervenait. Dieu voulait être le proche parent d'Israël. Il voulait restituer son peuple dans leur bien du départ, perdu tragiquement en cours de route. Donc maintenant, on peut dire que Pharaon n'est plus le danger. Maintenant, la question, c'est comment se tenir devant un Dieu trois fois saint quand il vient en personne. Comment se tenir en sa présence? Comment être en relation avec lui? Comment est-ce que Dieu rachète un peuple qui s'est éloigné? Voilà la nécessité de la Pâque. Et pour son efficacité, mais c'est clair. Vous avez vu dans le chapitre 12 le soin des instructions. Les versets 3 à 11, 8 versets sur les 14 pour dire tous les soins à apporter. L'agneau sera pour chaque foyer. Verset 3. Verset 4, ce serait selon les besoins de chacun. Des besoins plus importants, il y a des ados dans la maison, un peu plus. Le verset 10, l'agneau sera à brûler entièrement, pas de reste. Pourquoi? Parce que l'agneau est pour la Pâque uniquement. Et il faut manger ce repas à la hâte parce que, pourquoi la hâte? Parce que Dieu est sur le point d'arriver. On a vu au verset 13 que le sang sera un signe pour eux. J'aimerais qu'on se mette juste un instant à leur place. Moïse est arrivé avec ses belles promesses de libération, et les choses sont allées de mal en pire. Plus de paille, davantage de travail. Et puis, il revient, et les choses continuent. Il semble avoir un fléchissement du côté de Pharaon, mais en fin de compte, rien n'a changé. Et puis, voilà qu'il arrive à nouveau à dire, mais cette fois, c'est décidé. 9 déceptions. Pourquoi maintenant ils vont croire? C'est le défi de la foi. Il fallait de la foi à penser, mais mettre du sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, ça va faire une différence quelconque. Donc, de leur côté, une démarche de foi. Mais notre texte dit surtout que le sang est un signe pour le Dieu qui vient. C'est la Pâque, fin verset 11, pour l'Éternel. Et la suite du verset 13 dit, « Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. » Il y a des choses que nous avons de la peine à saisir quant à l'identité de Dieu. Inévitablement, il y a des facettes de sa personne que nous accueillons avec joie et plaisir. Il y a d'autres où nous avons de la difficulté vraiment à concilier avec ce que nous savons de lui. Mais la sainteté de Dieu fait qu'inévitablement, il y a séparation avec ces créatures qui sont plus dans leur perfection première. Et on voit que ce Dieu trois fois saint, ce Dieu qui est un feu dévorant, il passe. Et si les premiers-nés sont pas frappés dans la maison de chaque Israélite, c'est uniquement parce qu'il y a une autre mort qui a été constatée. Un agneau sans défaut. Le jugement est suspendu, le premier-né n'est pas frappé jusqu'à ce qu'un autre premier-né offrira le sacrifice parfait. Ce passage, j'ai relevé un aspect, la sainteté de Dieu. Ce passage ne mentionne pas le péché, par exemple. Par la suite, il va avoir, il va être développé la nécessité des sacrifices. Mais ici, c'est pas un sacrifice pour le péché, parce que c'est consumé. Le problème, c'est la question de la sainteté de Dieu. Problème. La question n'est pas une question ici encore du transfert des péchés. Dieu est trois fois saint. Et c'est en découvrant quand Dieu se révèle, comme c'est le cas ici, sa sainteté, que nous commençons à ressentir notre besoin et avoir une attitude de respect envers un tel Dieu nous garde de beaucoup de choses. Un aperçu partiel de Dieu peut entraîner une attitude légère dans nos comportements et saisir quelque chose de cette sainteté nous permet de comprendre un petit peu du sacrifice consenti par l'agneau sans défaut. À l'approche de Pâques, souvenons-nous de la sainteté de Dieu pour mesurer la démarche, le pas énorme que Dieu a fait pour devenir notre plus proche parent. Il a vu notre séparation. Il sait fort bien qu'aucune démarche de notre part peut nous permettre d'entrer dans cet état de sainteté. Il peut seulement la communiquer. À Pâques, il a fait. Nous sommes maintenant, peut-être vous avez remarqué en venant dans la salle, sur les portes, si vous n'avez pas vu, regardez en sortant, nous sommes maintenant le peuple qui a été racheté par le sang de l'agneau. J'aimerais prier. Nous nous courbons devant toi, le Dieu trois fois saint. Nous reconnaissons ta sainteté. Mais nous reconnaissons aussi de ce que tu t'es approché de nous et tu as enlevé la séparation de par l'agneau, offert en sacrifice. Nous te bénissons pour un si grand amour qui t'a poussé à venir jusque nous, jusque moi, pour enlever toute barrière. Pour nous dire que tu n'es pas un Dieu lointain, sévère, mais un Dieu proche, aimant, un Père en Jésus-Christ. Amen.